France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
Et dans 15 minutes de plus, ce vendredi matin, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir l'un des plus grands danseurs d'aujourd'hui, nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris en 2017. Il a dansé les plus beaux ballets, des classiques aux contemporains, Casse-Noisette, Roméo et Juliette, Gisèle. Et il était très récemment sur la scène de l'Opéra Garnier pour Onegin de John Cranko. Bonjour Hugo Marchand.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, ravi de vous recevoir. Le spectacle, il était magique, magique de vous voir sur scène, magique de voir cette mise en scène, cette chorégraphie, cette histoire aussi d'Onegin qui a été imaginée d'abord par Pouchkine, qui a été mise en musique par Tchaïkovski et qui a été mise en ballet par John Cranko. Vous êtes Eugène Onegin, c'est un dandy qui est un peu blasé, qui est amoureux mais qui néglige une femme, Tatiana, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Ça, c'est la musique du troisième pas 2. Effectivement, ça fait 10 ans que Onegin n'a pas vu Tatiana et qu'il a le regret de cet amour qu'il n'a jamais vécu avec elle.
Il est parti en voyage.
Il l'a abandonné, il l'a laissé en pensant que c'était pas forcément intéressant. Il était déjà très blasé, très mélancolique. Un spleen baudelairien à la russe, en fait. Ici, il lui prend la main, il la fait tourner. Après, c'est lui qui tourne.
Vous êtes donc debout.
Exactement, il y a quelque chose avec le regard très au loin, comme si on essayait de voir ce qu'on n'avait pas vécu. On ne se regarde pas dans les yeux d'ailleurs, puisqu'on a une grande pudeur et puis une timidité presque, comme quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qu'on aime très fort. Une gêne aussi. Là, elle fait un relevé arabesque. Et ce pas de deux est difficile, puisque c'est un pas de deux où l'homme force un petit peu la femme. C'est un pas de deux où Onegin va utiliser tous ses atouts de charme, son charisme, son élégance, sa vieillesse aussi, sa vulnérabilité pour la retrouver, pour la rattraper.
Physique ?
Physique, et par exemple, il s'assoit par terre, il lui demande une fois, il lui demande deux fois.
Décrivez-nous d'ailleurs la manière dont il s'assoit.
Il arrive au sol en tournant, il lui tend la main une fois, deux fois, trois fois, de manière beaucoup plus insistante. Il la retire encore une fois et tout à coup, elle accepte. Et tout à coup, le piège va se refermer sur elle, puisqu'elle a craqué. Son amour est trop grand, en fait. Son amour de jeune femme revient. Et en fait, ce qui est très beau dans ce pas 2, c'est que c'est l'amour des 20 ans, quand on croit au grand amour, face au temps qui est passé sur les âmes et sur les corps, avec peut-être une forme de cynisme sur l'amour qui est arrivé aussi, de plus croire au grand amour quand on a 40 ans, 50 ans, ou plus.
Comment est-ce qu'on exprime justement ces tourments, ces situations amoureuses, compliquées, douloureuses parfois, en dansant, Hugo Marchand ?
On les exprime parce qu'on est des hommes et des femmes dans la vraie vie, parce qu'on les vit certaines fois dans nos vies personnelles. Je crois que je comprends ces rôles aussi parce que certaines fois j'ai la sensation d'avoir vécu avant cette vie. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais il y a comme une mélancolie en moi, même depuis l'enfance, qui est là, qui me fait sentir toutes ces émotions que finalement j'ai pas vraiment vécues dans cette vie-là, mais qui me rapproche de ces personnages. Onegin, c'est un personnage qui m'intéresse énormément parce que c'est un personnage qui est très gris. C'est pas un prince de ballet lisse et, oui, et poli. C'est un prince. C'est pas un prince d'ailleurs. C'est un dandy. Il a cette grisaille, ce côté très très humain. Il est ni bon ni mauvais.
Il est blasé.
Il est blasé. Il s'intéresse moyennement à cette Tatiana, qui elle est folle amoureuse de lui. Et par ennui, il va aller jusqu'à foutre quand même le bazar à son anniversaire et provoquer un duel avec Lenski, son meilleur ami, un jeune poète, et le tuer en duel. Il y a une scène qui est très impressionnante où Lenski jette son gant par terre pour... Oui. Défié, parce qu'au 19e siècle, lancer un gant par terre, c'était une proposition de défi. Et Onegin va jusqu'à le tuer sans vraiment réaliser ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un personnage qui est un peu sans conséquence. Il se laisse porter par la vie avec une forme de grande lâcheté. Et au final, il regrette tout ce qu'il a fait.
Mais c'est spectaculaire de vous voir danser parce que vous êtes danseur et comédien. là, on vous entend et on a l'impression que vous jouez. On vous voit amoureux, contrarié, en colère. La danse, c'est un langage universel, mais est-ce que vous, vous avez en tête, à ce moment-là, vous dire les pas que vous devez faire, les positions que vous devez tenir, ou est-ce que c'est comme intégré à votre schéma corporel? Est-ce que vous comptez 1, 2, 3, par exemple, dans votre tête?
Non, je compte plus,
Vous comptez plus?
Parce que Onegin, c'est un ballet que j'ai dansé plusieurs fois. Aujourd'hui, je le danse avec Dorothée Gilbert, qui est une partenaire avec qui j'ai l'habitude de beaucoup danser.
Qui est Tatiana, donc cette jeune
femme. Exactement. Et surtout, en fait, j'ai envie de me détacher de cette technique et de tout ce vocabulaire, puisque aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de raconter les histoires. Les gens viennent pas nous voir nous, ils viennent se voir eux. On est le miroir de leurs émotions et le miroir de leur propre vie. On n'est pas là pour nous mettre en scène et être des égos surdimensionnés sur la scène de l'opéra. On est là vraiment pour mettre en lumière la vie des gens, je trouve, à travers tous ces personnages.
Et pourtant, vous êtes danseur étoile, et pourtant, vous avez une présence invraisemblable sur scène, quelque chose qui relève du charisme, du magnétisme, qui est quasiment indéfinissable. Ça, vous le savez, vous en jouez ou pas?
Je sais pas si je le sais, en tout cas, j'ai pas envie d'en jouer. J'ai pas vraiment envie de réfléchir à ça. Je réfléchis à mes personnages, je réfléchis au processus de travail, puisque tout ça, c'est un processus sans fin. On progresse jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est la seule chose qui m'importe aujourd'hui. Une fois que j'ai délivré ce que je pouvais délivrer le jour du spectacle, avec ma fatigue, avec mon énergie, mon inspiration ou justement ma tristesse, ça
ne
m'appartient
plus. La question, ça ne vous appartient plus, ça nous appartient peut-être un peu.
Ça appartient au spectateur.
Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une grammaire qui est figée, codifiée, extrêmement stricte. D'ailleurs, dans les ballets classiques ou néoclassiques, comme ça existe plus tellement dans le monde, mais dans des écrins, dans des temples comme Garnier, c'est toujours là. C'est une grammaire qui est ancienne, qui parle français, la danse parle français, mais vous l'avez maîtrisé au point qu'aujourd'hui vous êtes dans le lâcher-prise?
C'est un cadre qui est gage de liberté. De manière générale, je pense que le cadre est gage de liberté, et aujourd'hui dans la danse classique, on a un cadre qui est assez rigoureux, défini. Une fois qu'on arrive à maîtriser ce cadre, on a en fait beaucoup d'espace pour s'exprimer, beaucoup d'espace pour devenir singulier aussi à travers ces personnages. Ce qui n'est pas évident, c'est que ces personnages ont été dansés par des dizaines, des centaines, des milliers de danseurs avant nous.
Et certaines fois, il faut se réinventer.
Il faut essayer.
Certains essayent de le réinventer. Si on pense à Nourieff, par exemple, qui est le grand nom qui a dépoussiéré, réinventé ces formes extrêmement classiques de ballet.
Il faut en fait essayer de le faire moderne, c'est-à-dire aujourd'hui parler à des gens en 2025. Onegin, c'est un ballet des années 60-70. Voilà, bon bah comment faire aujourd'hui pour que ça parle à des gens 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, et réussir à les intégrer dans leur vie à eux. Moi, c'est ça mon défi aujourd'hui, c'est faire en sorte que ces ballets qu'on peut considérer comme poussiéreux le soient pas du tout, parce qu'en fait, ils parlent des grandes thématiques de la vie, l'amour, la mort, le désir, le regret, la mélancolie. Donc c'est des émotions qui sont toutes humaines et qui sont universelles, qui dureront jusqu'à la fin des temps.
Qu'est-ce que ça veut dire danser pour vous ? Danser, c'était le titre d'une autobiographie alors que vous êtes encore tout jeune, mais que vous aviez publié il y a maintenant 4 ans.
Exactement. Danser, c'est l'intention du mouvement. C'est donner une intention particulière dans un geste. Donc la danse commence très tôt, à partir du moment où on conscientise un geste vers quelqu'un ou vers soi.
Ça s'écrit ? Ça se lit? Il y a les conseils aussi de ceux qui vous accompagnent. La danse, elle s'est imposée à vous comme une évidence, ce que vous dites parfois, mais sans savoir exactement pourquoi. Elle est venue très tôt, en l'occurrence. C'était une lecture Martine Petit-Rat de l'opéra.
C'est sans doute un petit peu influencé mon enfance, mais je crois être née avec beaucoup de chance, puisque j'avais ce désir de danse qui était comme une graine au fond de moi, et que ça a germé avec la découverte d'un cours de danse, tout simplement. J'ai compris que ça allait me plaire à l'âge de 9 ans, et c'est le moteur de ma vie depuis. Et pour ça, je suis très chanceux, puisque je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire plus tard. Et la vie prend du sens grâce à ça.
Vous sentez davantage à l'aise pour raconter les histoires dans le registre classique ou contemporain ? Est-ce que c'est deux formes, deux exercices extrêmement différents ?
Dans le ballet contemporain, on raconte moins d'histoires qu'on raconte des émotions. C'est des choses beaucoup plus abstraites. La danse, elle est multiple. À partir du moment où elle a du sens, ça m'intéresse énormément. La danse pour de la danse, quand c'est un peu gratuit, quand on ne sait plus trop ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ça perd pour moi beaucoup d'intensité. À partir du moment où je sais que je vais délivrer un message ou proposer une vision, ou simplement mettre en lumière mon imaginaire, puisque certaines fois, la danse, c'est très très libre et on a arrive simplement avec tout ce qu'on a construit dans sa tête, avec son monde personnel. Ça, ça m'intéresse beaucoup.
C'est pour ça que vous tenez à cette institution qui est plusieurs fois centenaire, qui est l'Opéra Garnier. Vous y avez grandi, vous y avez vécu maintenant depuis combien de temps? Vous y êtes rentré à 13 ans?
J'ai 31 ans, je suis rentré à l'école de danse à 13 ans, effectivement, et j'ai été engagé à 17 ans dans la compagnie, donc ça va faire plus de 15 ans, presque 20 ans que je suis à l'Opéra de Paris.
15 ou 20 ans que vous vivez avec les mêmes personnes, ou quasiment?
Quasiment, ouais, avec des gens qu'on aime et des gens qu'on aime un peu moins, c'est la vie.
Mais à quoi ça ressemble justement la société du ballet de l'Opéra de Paris ?
C'est une famille.
C'est une famille.
C'est une famille avec des gens avec qui on a de super relations et d'autres avec qui on est plus distants. Après, c'est aussi une entreprise. Il ne faut pas penser que l'Opéra de Paris, c'est un endroit un peu cocon où on n'est qu'entre nous. C'est une entreprise, comme on peut travailler dans une entreprise en France avec des gens, avec des collègues et avec des règles. Donc, je pense aussi que c'est important de se rendre compte que l'Opéra de Paris est aussi une entreprise parce qu'on est aussi dans une logique de produire des spectacles, de proposer des spectacles au maximum à tout public. Alors malheureusement, à mon goût, on n'est pas à tout public, mais c'est pour moi quand même dans une logique aussi d'institution française où on doit proposer la culture.
C'est d'ailleurs pour ça que vous avez créé une association pour démocratiser notamment la danse et l'accès à la danse. Hugo Marchand pour la danse, vous dansez dans des lieux emblématiques pour un prix très modique. C'est véritablement amener la danse à ceux qui n'ont pas forcément la chance ou l'opportunité de la découvrir par eux-mêmes.
Exactement. Moi, j'ai la chance d'être un enfant de la République, puisque en fait, j'ai grandi donc à Nantes. J'ai intégré le conservatoire de Nantes, qui est une école publique. Puis j'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris, une école publique gratuite. Et j'ai intégré une institution française où mon salaire est payé par les impôts des gens. Donc aujourd'hui, j'avais la grande frustration.
Vous passez des concours. Vous n'arrêtez pas toute votre vie de passer des concours jusqu'à devenir étoile. Il faut le raconter parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer. On est d'abord quadrille.
Effectivement, on passe beaucoup de concours, c'est une hiérarchie, avec comme à l'armée, sujet, premier danseur,
et on devient danseur étoile. Comment ça se passe d'ailleurs? Parce que vous êtes devenu danseur étoile, c'était un soir de représentation à l'autre bout du monde.
Exactement, j'ai été nommé danseur étoile à Tokyo. Et c'est aussi, je rebondis sur ça, parce que cette responsabilité de danseur étoile, pour moi, elle ne s'arrête pas au simple fait de danser des rôles. Et j'ai envie de m'engager, et c'est pour ça que je me suis engagé avec cette association. Aujourd'hui, organiser ces spectacles à 13 € en région, dans les territoires, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de voir de la danse, et de le proposer dans des lieux du patrimoine, puisque ça s'appelle les étoiles au château, c'est une manière de rendre à ma manière, à ma façon, ce que l'État m'a donné. Et l'État m'a formé aujourd'hui pour avoir cette expertise de la danse. Et j'ai envie de le proposer, puisque je suis persuadé que la danse est un outil pour se réapproprier son corps, reprendre confiance en soi et apprendre à vivre avec le collectif. Quand on apprend à danser, une des premières choses que l'on fait, c'est faire la ronde, c'est prendre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est appréhender son espace, appréhender l'espace de l'autre, appréhender son corps et le corps de l'autre. Et je pense que si aujourd'hui, on apprenait à tous les enfants à danser à l'école, la société se porterait un petit peu mieux.
Et c'est ce qu'on a vu justement dans ce magnifique ballet Onegin. Vous avez cette phrase étonnante dans votre livre, vous écriviez à propos de Chris Alpite, elle veut travailler avec un corps très grand, très large, on va dire qu'il ressemble au vôtre, avec cette envergure et ses bras. Je suis une feuille blanche. Qu'est-ce que ça veut dire être une feuille blanche quand on est danseur?
Ça veut dire qu'on est disponible. On se rend disponible pour le chorégraphe, pour aider son inspiration, pour proposer son corps comme une pâte à modeler pour la création et être aussi co-créateur. On n'est pas simplement là pour se laisser faire, on est là pour aussi aider le chorégraphe à accoucher de son œuvre.
La morale de l'histoire, c'est par là qu'on termine. La morale de l'histoire, Hugo Marchand, on peut citer Paul Valéry, la danse est un art déduit de la vie même. C'est ce qu'il écrit dans sa philosophie de la danse. Vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis d'accord avec lui, puisque depuis des millénaires, les hommes préhistoriques, après avoir trouvé où dormir et où quoi manger, ils ont fait de la musique et ils ont dansé. Et donc c'est pour ça que la danse, c'est quelque chose d'universel. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les genres. Être un homme qui danse, c'est pas un problème. D'ailleurs, tout le monde danse en boîte et tout le monde a besoin de danser. Donc la danse, c'est quelque chose qui est pour tous.
Bah, c'est une magnifique conclusion. Merci infiniment, Hugo Marchand, d'avoir été l'invité des 15 minutes de plus. Très
Merci
bonne journée.
Beaucoup.